maintenant, on va commencer le vif du sujet. On va rentrer dans le vif du sujet avec la partie la plus difficile, qui est celle qui revient au docteur Joël Spirou, qui est celui qui va tenter de définir ce qu'est la médecine environnementale, de définir sa place, son intérêt dans nos sociétés. Le docteur Spirou est docteur en médecine générale et de l'environnement. Il préside le comité de recherche d'information indépendante sur le génie génétique.
Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Bonjour et merci d'être si nombreux pour cette problématique qui me tient tant à cœur depuis plus de 20 ans. Et on m'a demandé de vous faire une présentation rapide de la problématique santé-environnement. C'est un vrai challenge puisque vous présentez un monde en l'espace de 20 minutes. Je vous demanderai donc d'être bien concentré. Et puis, on part pour un marathon tous ensemble. Et la santé environnementale, effectivement, il est temps d'agir puisque nous, au quotidien, dans nos cabinets, et bien naturellement, nous recevons régulièrement des patients atteints de ces pathologies et qui ne devraient pas être malades. C'est un vrai problème humanitaire, si j'ose dire. Alors voilà, Héraclite, que disait-il? L'état de santé de l'homme reflète l'état de santé de la Terre. Ben, vous pouvez regarder un petit peu ce qui se passe sur la planète. Ça vous laisse penser un petit peu l'état de la santé de notre population. Et puis, Hippocrate, l'aliment est ton premier médicament. Pour approfondir la médecine, il faut considérer d'abord les saisons, connaître la qualité des eaux, des vents, étudier les divers états du sol et des genres de vie des habitants. Eh bien, écoutez, quand on regarde l'alimentation, entre une alimentation industrielle, et souvent trop riche, trop déséquilibré, etc. Voire éventuellement manipulé génétiquement avec les pesticides en résidus, on peut imaginer que la population française et la population mondiale ne soient pas en très bonne santé. Alors, qu'est-ce que la santé? La définition de l'OMS de 48, état de bien-être physique, psychique, et pas uniquement l'absence de maladie. Je vous ferai remarquer que cette définition qui avait été incluse dans la loi HPST a été retirée par le Sénat. Au prétexte que le bien-être, ça avait plutôt rapport avec le bonheur. C'était franchement mal connaître ce que c'est que le mal-être, parce que quand on a un mal-être physique à faire toujours le même mouvement, on déclenche des pathologies, et quand on a un mal-être psychique, eh bien parfois on finit par se suicider. On en a eu de nombreux exemples, France Télécom par exemple. Et donc la définition de la santé environnementale, elle est faite déjà depuis 1994, mais pas grand-chose ne bouge, et elle précise que naturellement, il faut la santé environnementale comprend tous les aspects de la vie, y compris les qualités de la vie déterminées par les facteurs physiques, chimiques, biologiques, sociaux, psychosociaux, esthétiques de l'environnement. Et donc, vous voyez que le travail reste à faire, les idées sont bonnes, 48-94, et vous savez tous que la Charte de l'environnement, qu'est-ce qu'elle nous a dit? La Charte de l'environnement, qui est une loi maintenant, depuis 2005, que chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et favorable à sa santé. Mesdames, Messieurs, je vous demande de réfléchir à ça parce que il me semble que nous sommes très loin de cela. Alors, qu'est-ce que l'environnement? Eh bien, Einstein nous disait, l'environnement, c'est tout ce qui n'est pas moi. Et je pense que ce cher Einstein avait bien raison. Et donc, on va, ce n'est pas uniquement les petites fleurs et les petits arbres dans la campagne. L'environnement, on peut le décrire de la façon suivante. D'abord, l'environnement biologique, toute la biomasse, biologique, végétale, virale, faune, flore, et puis nous-mêmes. L'homme fait partie de son environnement et on est un grand acteur de l'environnement. Et il faut qu'on s'intègre là-dedans. L'environnement physique, rayonnement ionisant, rayonnement électromagnétique, nanoparticules, on essaiera de parler de tout ça pendant le congrès. Vous remarquez que cette définition a été la base du plan du congrès. L'environnement chimique, tous les xénobiotiques présents dans l'air, l'eau, le sol, l'alimentation. L'environnement sensoriel, le bruit, couleur, odeur, etc. Tout l'on subit. De vraies pathologies auditives, acouphènes, hypoacousie, etc., du fait d'un environnement trop bruyant. Et puis l'environnement socio-anthropologique dans lequel un environnement que j'aime bien mettre en exergue, c'est l'environnement cognitif, c'est-à-dire à savoir par quels moyens on appréhende notre environnement, notre culture familiale, les médias, la publicité, l'enseignement, etc., et c'est fondamental. Et puis, sans oublier naturellement nos comportements, puisque l'homme est nous sommes adaptables et en fonction des adaptations, eh bien, on peut générer des effets positifs ou négatifs sur notre santé. Un petit exemple, par exemple, c'est avec la première crise dans les années 70 du pétrole. Nous avons transformé nos habitations dans des bonbonnières étanches et nous avons déclenché des pathologies dues à tous les produits chimiques que l'on peut respirer dans ces environnements. Et une des pathologies classiques en médecine générale, c'est la bronchiolite chez les nourrissons, qu'on ne voyait pas dans les années 80 encore, et qui est une grande pathologie maintenant, et c'est un vrai coût social aussi. Alors, les pathologies environnementales sont donc toutes les pathologies causées par ces différentes catégories d'environnement. Dans ce cadre-là, quand on parle d'environnement et santé maintenant, on avait traditionnellement l'habitude de parler de la qualité de l'eau, de l'air, etc. Mais comme tous ces produits, qu'ils soient chimiques, bactériens, viraux, physiques, se promènent dans les grands cycles géobiochimiques, il faut plutôt maintenant parler des environnements chimiques, biologiques, etc. et après décliner les différents milieux dans lesquels on les trouve. Et bien, vous voyez, par exemple, il y a eu un grand saut cognitif dans notre environnement. Je vous ai mis quelques plantes toxiques. Et bien, ces plantes toxiques, et puis une vipère, et bien, il ne serait jamais arrivé à une maman, il y a 50 ans ou 100 ans, de donner à manger ces plantes-là ou de faire jouer ses enfants avec une vipère, parce qu'il y avait une adaptation au milieu, une reconnaissance de ce qui se passe. Par contre, comment se positionner quand on voit, quand on ne sait pas ce qu'il y a dans une cheminée, dans les fumées de cheminée, ou dans un lac vert complètement eutrophique, ou celui qui est en dessous complètement acide, et bien voilà, ou dans les pesticides que vous voyez par ailleurs. Et bien voilà le grand challenge du XXIe siècle, c'est d'apprendre à reconnaître ce qui se passe autour de nous pour essayer d'éviter tous ces problèmes-là. Et puis je vous ai mis une petite bactérie là, qui a été utilisée depuis la nuit des temps. En particulier par les Borgiens, c'est le bacille botulique. Ils ne savaient pas que ça existait, mais au moins ils s'en servaient astucieusement pour faire disparaître leurs ennemis. Alors, depuis la révolution industrielle, nous avons pollué nos milieux, dévasté les milieux de vie, modifié les grands cycles géobiochimiques, cycle de l'eau, du carbone, réchauffement climatique en est un exemple, diminué de 50% la biodiversité en 50 ans, avec des modifications profondes des écosystèmes, et puis maîtriser la reproduction, PMA, FIV, bond d'ovocyte, clonage, modifier le patrimoine héréditaire, et maintenant on en arrive à la biologie de synthèse. Mais attention, le gros problème, c'est que l'évaluation toxicologique n'a pas été apte à protéger la population mondiale de tous ces changements. Et d'ailleurs, ni la faune ni la flore, nous sommes tous dans le même bateau. Et Anna Arendt disait, le progrès et la catastrophe sont la verre et le revers d'une même médaille. À nous de faire en sorte que le revers soit maîtrisé. Alors, le monde est complexe et on a toujours eu tendance à avoir une vision binaire du monde et il va falloir changer notre façon d'appréhender notre relation au monde. On a une vision réductionniste du vivant et ni la vie ni les pathologies ne peuvent être pensées de façon binaire ou linéaire. Et là, ça, c'est la limite de la pensée médicale actuelle, basée en grande partie sur la vision préhistorienne de la maladie et sur le soin. Mesdames, Messieurs, grande annonce aujourd'hui, je dis toujours quand je fais une conférence, nous n'avons pas de système de santé en France ni en Occident, nous n'avons que des systèmes de soins. Et il va falloir que cela change, ça paraît peut-être un petit peu brutal, mais ça va être fondamental, sinon on verra défiler dans nos cabinets de plus en plus de malades qui ne devraient pas y être. Et ce qui est vrai pour les pathologies infectieuses n'est pas toujours vrai pour les autres pathologies environnementales. Vous comprendrez très vite que plusieurs facteurs environnementaux ou xénobiotiques peuvent provoquer une ou plusieurs pathologies ou engendrer un ou plusieurs symptômes. Il va falloir apprendre à penser le complexe et dans ce cadre-là, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à relire Edgar Morin et en particulier son livre sur l'intelligence de la complexité. L'écologie scientifique, c'est une aide à la compréhension. L'écologie, découverte par Ernst Haeckel, vous voyez, 1866, il s'est passé beaucoup de choses à la fin du 19e siècle, et qui disait, par écologie, nous entendons la totalité de la science des relations de l'organisme avec son environnement, comprenant au sens large toutes les conditions d'existence. Belle définition. Et puis, Jean-Paul Deléage, que certains ici connaissent, a été en santé environnementale un de mes enseignants. L'écologie est la matrice vivante d'une nouvelle conscience et d'une nouvelle culture, celle de l'appartenance à la nature, celle de la présence de la nature au plus profond de nous-mêmes, être humain, à la fois partie et acteur du système global de la nature. Quand on a compris ça, on essaie d'être un petit peu plus vigilant au quotidien. Alors, les notions écosystémiques sont importantes, hein, écosystème, biotope égale biotope plus biocénose, hein, je ne vais pas vous décliner ça. Et c'est intéressant cette vision, parce que justement c'est une vision qui nous amène à comprendre la complexité du monde et du vivant. et par exemple tout ce qui en découle. Hein, on peut prendre un organe, le tube digestif, ça peut être considéré comme un écosystème. Et bien, quand on met une sorte de pression de sélection sur le tube digestif par des antibiotiques répétés, eh bien, on tue les bactéries, on déséquilibre le tube digestif, on voit apparaître des mycoses, ou on voit apparaître des troubles de l'absorption digestive. On a la même chose sur un organe, la peau, hein, quand on se lave 10 fois par jour, et bien naturellement, on finit par déséquilibrer l'écosystème de la peau et puis déclencher des pathologies. Et c'est la même chose au niveau des génomes. Si on se met à modifier l'intérieur d'un génome, on appréhende encore très mal les impacts que cela peut avoir. Donc, il faut bien comprendre cela. Et dans les notions écosystémiques, eh bien, il y a la notion de chaîne trophique, hein, la concentration et de chaîne toxique. La concentration des produits chimiques toxiques se font à la fois du côté phytoplancton, zooplancton, poissons carnassiers et jusqu'à l'homme, et de l'autre côté, dans le monde terrestre, on parle des plantes, des animaux, et ça aboutit à l'homme, et tous ces produits peuvent se concentrer dans notre alimentation, ou dans l'air qu'on respire, ou dans l'eau qu'on boit. Voilà un petit peu le schéma, hein, de ce qui se passe au-dessus de nos têtes, sans que bien souvent on s'en rende compte. Et bien voilà, empoisonnement des ressources des milieux de vie, hein, quantité totale de xénobiotiques par an, 3 millions de tonnes en 1930, 420 millions de tonnes en 2010. Vous voyez que ces produits, en général, se bioaccumulent dans l'environnement et aussi dans notre corps, et on peut imaginer que tout ça ait plus que des effets délétères sur la santé. Et bien les xénobiotiques, hein, qui sont les résidus de l'activité humaine et des perturbateurs endocriniens, par exemple, avec 5 effets mal connus, la bioaccumulation, les effets combinés, les effets à long cours, les effets des faibles doses, les perturbateurs endocriniens en sont un exemple, et puis aussi les effets de transmission transgénérationnelle qui sont quasiment jamais étudiés. Voilà le grand challenge auquel nous allons être amenés de travailler au XXIe siècle. Quelques exemples, juste pour vous montrer, on fait un petit peu l'état des lieux, mais c'est une vieille histoire, on savait ça. Hein. En 52, l'aigle pêcheur, l'anglais des USA, on trouve que les oiseaux sont sans libido, stériles, et on découvre une origine chimique. Au milieu des années 60, les visons deviennent stériles et on trouve du PCB, des PCB dans les poissons qui les nourrissaient. En 70, les mouettes, hein, les goélands, 4 à 5 œufs par nid au lieu de 3, les femelles nichent ensemble, baisse du nombre des mâles, comportement sexuel anormal, et bien les oiseaux, les colonies étaient contaminées par les DDT. En 80, les alligators, et bien, ils ont 60% des pénis sont atrophiés, baisse de l'économie du cuir, et on retrouve comme responsable un insecticide de dicofol. Et en Normandie, dans l'estuaire, bien on a des poissons que j'appelle transsexuels, c'est-à-dire qu'ils ont à la fois des homogonies et des spermatogonies, comme les barres, les flés, hein, qui ont 25% des barres, d'après l'Ifremer, ils sont transsexuels dans l'estuaire de la Seine, ou au large de l'estuaire de la Seine. Donc vraiment, il y a une pollution globale. Et alors, comment l'homme aurait-il pu y échapper? Ben, l'homme n'y a pas échappé. En 60, perturbation des grands lacs écologiques à la frontière du Canada. Je vous invite à lire Printemps silencieux de cette journaliste Rachel Carson, qui a risqué sa vie pour dénoncer cela, et qui a mis en évidence en particulier des cancers, des malformations néonatales, des troubles du comportement chez les enfants exposés en période prénatale. Vous voyez, tout ça, c'est une vieille histoire, 1960. Hein, on est en 2013, bientôt 2014, ben, ça fait plus de 50 ans, et ça ne bouge pas tellement. Quant à Nice, à Québec, qui a montré qu'on avait perdu 50% de nos spermatozoïdes en 50 ans, dès 92. Une recherche détox, campagne WWF en 2004, qui avait montré que sur 101 molécules toxiques cherchées dans le sang des députés européens, on en trouvait en moyenne 60, 76. Et que chez les ministres de l'Environnement, doivent-ils prendre plus soin d'eux, on en trouvait que 55. Vous voyez comme quoi que l'environnement cognitif est fondamental, parce que quand on sait ce qui se passe, eh bien on se protège peut-être un peu plus. Et pendant ce temps-là, on trouvait la même chose chez la faune et chez la flore sauvage. Et bien voilà, genèse multifactorielle des pathologies environnementales, eh bien vous avez compris, je n'ai pas besoin de vous faire des dessins. On va poursuivre, parce que sinon je vais me faire tirer les oreilles si je suis trop tard. Sur des volants dans les
réseaux. Vous avez 5 minutes.
Pardon ?
Vous avez 5 minutes, docteur.
On va être trop vite. On va vite. Alors, quelques exemples. Formaldéhyde. Vous voyez ce produit qui se trouve partout. Les résines, les vernis, fumée de cigarettes, etc. Bien, vous voyez un petit peu comment ça se répartit. Alors les autres, donc, alors, vous verrez ça quand on fera la présentation. Augmentation des cancers, bien juste, on va venir là-dessus, là, car en 2011, voilà, c'est pitoyable chez l'homme, voilà, le nombre de cas supplémentaires à IBC chez les femmes. Voilà, vous voyez, 150 000, 160 000 nouveaux cas par an. Voilà. Donc, on va continuer très rapidement, puisque sinon la censure va tomber. Au-delà des cancers, vous savez ce qu'on fait, parce que vous voyez toutes ces pathologies-là dans vos cabinets au quotidien. Et voilà, ce qui est important, c'est que en 50 ans, on a vu une diminution du sperme chez les hommes, augmentation des maladies immunitaires, des allergies, augmentation des cancers, des maladies hormonales, de l'hypofécondité, des maladies neurodégénératives et des malformations néonatales. Et en parallèle, nous avons une diminution de la biodiversité. Donc, nous sommes tous dans le même bateau. L'INSERM, alors là, bien sûr, hein, ça c'était pour le plan nutrition santé qui ne parlait pas des pesticides dans l'alimentation. Il faut revoir ça, effectivement. Alors, ce qui est important, juste là, avant de terminer, c'est que les pathologies humaines, il y a d'abord les pathologies héréditaires, avec les pathologies chromosomiques et les pathologies épigénétiques. On a la chance d'avoir Pierre-Henri Bouillon qui nous parlera de l'épigénétique aujourd'hui. Et puis, dans les pathologies environnementales, les pathologies microbiennes et les non-microbiennes. Eh bien, c'est un nouveau paradigme, parce que ça, tout change entre les deux, notre regard. Les pathologies microbiennes, agents automultiplicatifs, les autres s'accumulent. Des effets à court terme pour les uns, des effets à long terme pour les autres. Ça a des spécificités d'organes et sur les pathologies non microbiennes, c'est des effets diffus. La taille de la cellule d'immunité de l'immunologie pour les pathologies microbiennes et les non microbiennes, c'est la taille de la molécule et la détoxification par la foie. Et vous voyez que les effets sont pas les mêmes sur la santé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au XXe siècle, nous avons vécu le siècle de l'hygiène bactérienne, et il faudra toujours continuer parce que les pathologies infectieuses sont toujours malheureusement trop nombreuses, mais que l'hygiène chimique, physico-chimique, ce sera le défi du XXIe siècle. Que faire? Réaliser de réelles études toxicologiques indépendantes, transparentes, permettant l'expertise contradictoire, promouvoir la recherche sur les effets des xénobiotiques, effets combinés, vie entière, sur la production et l'entrée générationnelle, informer et former le corps médical dans son ensemble, l'hygiène physico-chimique et à la santé environnementale, apprendre à vivre, informer la population dès le plus jeune âge et améliorer, assainir le milieu de vie, voire détoxifier ce qui sera sans doute le grand challenge du XXIe siècle. Eh bien, mesdames, messieurs, comme disait La Fontaine, ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient atteints. Je vous remercie.